France Culture. Hildegard de Bingen, génie cosmique. Une grande traversée d'Aurélie Sfez et Benjamin Hue. Épisode 5, Hildegard Mania.
Ce qui confère l'autorité à Hildegard, ce qui lui permet de faire ce qu'elle veut, ce qui lui permet d'être une femme libre et de prendre des décisions, c'est le fait que ses visions ont été attestées véridiques. Donc à partir du moment où le pape et Bernard de Clairvaux décident que, à travers Hildegard, c'est l'Esprit Saint qui parle, et donc c'est Dieu qui parle, ce qu'elle dit est exact.
Génie, ça je veux bien. Qu'elle ait beaucoup de dons, de talents... Compositrice, actrice aussi un peu, parce que quand même la manière dont elle tient tête à des grands, voilà. Tout est dans Hildegard, ça c'est vrai. Il y a de quoi occuper plusieurs vies, ça c'est certain.
L'univers, chez Hildegard, pas de genre attribuable, en ce sens qu'il est au-dessus de la différence entre les genres masculin et féminin. Bon. Et il est d'une complexité et d'une beauté qui fait qu'il n'est pas réductible à l'un des deux genres, des deux sexes.
Et c'est un univers qui, pour moi... transcende les générations et les époques dans lesquelles on vit.
La vie d'Hildegard a duré 80 ans. Ça semble fou au Moyen-Âge. Mais en vérité, la sainte a 1000 ans et plusieurs vies à venir. Aujourd'hui, c'est la Queen, une icône, un gourou, une star médiévale contemporaine, un totem queer. Dans les années 70, de la Californie à l'Allemagne, les premières communautés hippies prônent un retour à la nature, à la vie en communauté, et se cherchent une spiritualité. Leurs vêtements, leurs chansons folk, accompagnées de tambourins, grelots et vielles à roues, nous renvoient dans un Moyen-Âge réinventé, qui fusionne avec le mouvement New Age. Dans ce syncrétisme, Hildegard devient leur idole. La reine des vertus fait son retour en grâce. Et la Hildegard Mania ne s'arrête pas là. Elle est une véritable marque, un business qui roule. Tisane, potage et huiles essentielles, cercles de bien-être, livres de recettes et cueillettes en forêt, le phénomène est planétaire, la visionnaire est devenue la sainte patronne des médecines douces. Pour les nouveaux mouvements féministes et écoféministes, et pour la jeune génération, elle est un modèle, une inspiratrice, symbole de sororité. Ceux qui se sentent différents dans leur identité la voient comme une amie libératrice. Sa mystique interroge les philosophes, sa langue secrète passionne les geeks et les fans d'heroic fantasy. Hildegard, partout, tout le temps, s'adapte à ses adeptes et à l'époque. Il y a 1000 ans, elle a dit « Pour le plus grand malheur des hommes, aujourd'hui ce sont les femmes qui prophétisent ». Comment déchiffrer cette capacité à toujours avoir un coup d'avance, si loin et pourtant si proche.
Quand Hildegard dit, voilà, pour le grand scandale des hommes, ce sont aujourd'hui les femmes qui prophétisent, elle souligne l'infériorité supposée de la femme tout en n'en pensant pas moins.
Laurence Moulinier, historienne spécialiste d'Hildegard.
Et en fait, les hommes se montrant complètement indignes, de grands prélats se comportant fort mal, des dirigeants perdant le sens des responsabilités, etc., etc. Dieu choisit justement d'envoyer un message fort par les humbles. Et donc, ce qui est un mal dû à des hommes va être réparé par une femme, si possible, humble et chétive, même si là aussi nous ne sommes pas complètement dupes. Hildegard n'est pas la seule à bénéficier un peu de cette médecine des contraires par les contraires. Indignité des hommes, guérison par une femme. Plus tard, je sais pas, moi je pense à Catherine de Sienne, à Brigitte de Suède, et même à Jeanne d'Arc. Dieu va choisir de s'exprimer, là où les hommes débloquent à plein tube et se comportent très mal, de faire passer un message fort par d'humbles figures, si possible féminines.
Quand Hildegard fait sa tournée de prêche, on peut penser qu'elle a beaucoup de succès au sens où ça dure assez longtemps.
Geneviève Bureur-Thierry, historienne médiéviste.
Elle prêche en direction des femmes en disant « Attention, les femmes sont les premières victimes de ces pseudo-prophètes parce qu'elles n'ont pas de culture théologique. Elles sont moins bien formées que les hommes quand elles le sont. » Et donc, elles sont les premières proies, les premières victimes de ces charlatans, qui ne sont jamais que des réformateurs un peu plus radicaux que les autres, qui réclament que l'Église se comporte autrement. Elles considèrent toujours que les femmes sont comme nous dirions aujourd'hui, la moitié de l'humanité avec laquelle il faut compter. C'est un point qui la rend plus moderne qu'on ne pourrait penser. Sans doute qu'elle se considère comme une pécheresse, comme tous les hommes et toutes les femmes qui sont sur la Terre. Mais je pense qu'elle essaye de se construire un personnage d'exemplarité. Et en particulier dans la bienveillance qu'elle diffuse autour d'elle. Parce que on a cette image de cette femme qui sermonne les grands, qui fait des reproches à l'archevêque de Mayence et au pape et à l'empereur. Mais il faut aussi penser qu'au sein de son monastère, elle exerce une autorité qui semble avoir été extrêmement bienveillante envers les autres moniales, les jeunes comme les plus vieilles, envers ceux qui venaient se faire soigner auprès d'elle, qui étaient très nombreux. Et donc, cette image de bienveillance qui est pour elle une des principales vertus divines. Pour elle, le Dieu des chrétiens est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde. C'est pas du tout un Dieu de colère. Il va se mettre en colère que contre les méchants. Et elle, elle essaye d'être du bon côté.
Parfois, le couvent peut être un refuge.
Absolument, absolument. Bien sûr.
Margaret von Trotta, cinéaste.
Mais ça ne veut pas dire que Hildegarde les appelle de venir dans le couvent. C'est plutôt la peur de l'agression de l'extérieur. Et ça devient de plus en plus grave. Et ça devient de plus en plus dur aussi pour les femmes, non, de se défendre sans devenir agressif. Parce qu'il y a les femmes qui veulent être libres sans devenir des guerrières, non. Et ça, bien sûr, si elles choisissent d'aller dans un monastère, elles ont une certaine liberté. Moi, je ne le ferai jamais parce que je veux me battre à l'extérieur et pas seulement à l'intérieur d'une cloître. Hein. Mais c'est bien que ça reste une possibilité, que ça reste un refuge.
Ça pouvait être vu comme un refuge d'entrer au monastère. Fuir un mari violent, un mariage dont on ne voulait pas, des grossesses à répétition dont quand même toutes les femmes savent le risque, hein, parce que c'est un opprobre que d'être stérile, mais à chaque fois qu'on donne la vie, on risque la sienne tout de même. Et on a des témoignages de femmes qui en disent qu'elles en peuvent plus. Je pense à Marjorie Kemp, par exemple, au 15e siècle, qui a eu 14 enfants et qui dit que les assauts de son mari, elle ne peut plus supporter. Donc peut-être ces jeunes filles qui choisissent cela, cherchent la paix, cherchent un entre-soi, veulent rompre effectivement avec un modèle masculin omniprésent, ça je le conçois. La retraite, quoi.
Vous avez une phrase que j'aime bien, Laurence Moulinier, vous dites que Hildegarde est une des recluses les plus ouvertes de son temps.
J'ai dit ça, moi. Eh ben, je le maintiens. Elle sort. Elle ménage pas sa peine, elle part à cheval, elle a plus de 60 ans, prêchée contre la dissidence religieuse qu'on appellera catharisme. Elle bouge, voilà. Et c'est pas quelqu'un d'emmuré et qui serait coupé du monde extérieur, loin de là.
Je l'imagine aussi dans sa cellule, je l'imagine dans son lit.
François Chéniaud, danseur.
Je l'imagine, comment quand on est dans un lit, dans un couvent, où est-ce qu'on tient ses mains? Où est-ce qu'on les met? Qu'est-ce qu'on s'autorise? Est-ce que ses mains caressent son corps? Est-ce que ses mains restent le long du corps? J'imagine toute cette chorégraphie de ses bras, de ses mains. Et du coup, résonne effectivement son rejet total des châtiments. Et ces allusions pas toujours masquées au miracle de ce que peut ressentir un corps et de la douleur à l'orgasme, j'imagine.
Salut à toi, fille généreuse, glorieuse et intouchée. Toi, prunelle de chasteté, matière de sainteté et plaisir de Dieu. Car cet épanchement d'en haut est descendu en toi, et le Verbe d'en haut en toi a revêtu la chair. Toi, le lys blanc que Dieu regardait avant toute créature. Ô la plus belle et la plus douce, comme Dieu se plaisait en toi lorsqu'en toi il déposa la caresse de son feu, et qu'ainsi son fils fut nourri de ton lait. Et ce fut la joie de ton ventre, la symphonie du ciel résonnant pour toi.
Après, est-ce qu'Hildegarde est une icône queer? Une icône, oui, certainement. Et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai mis du temps à vouloir m'y intéresser ou que j'ai retardé. Et son statut iconique même me pose un peu question dans la manière dont c'est exploité commercialement. Mais sur la dimension queer, je dirais que nous, on l'a pas du tout formulé comme ça, mais on s'est senti en sécurité. On s'est senti encouragé, on s'est senti stimulé. par son positionnement, par l'aspect non doloriste, par la manière dont elle a eu aussi de prendre son indépendance par rapport à un abbé masculin. C'est vrai qu'il y a eu plein de gestes où en fait on s'est senti en phase avec une matière en fait avec laquelle on se sentirait en sympathie. Et du coup, moi-même, dans ma propre façon dont j'ai d'essayer de construire ma vie et mon identité, et comme tout le monde essaye, je sentais qu'Hildegard allait être, certainement pas une icône, je sais pas si une alliée, en tout cas une compagne avec laquelle j'allais me sentir bien.
Dans un autre genre, je suis allée voir une jeune performeuse qui a choisi comme nom de scène Hildegard, tout simplement. Elle ressemble à une elfe. Elle est vêtue de toute une panoplie d'accessoires fantastiques. Elle scande des manifestes féministes, projette des vidéos-chocs expérimentales et politiques, et l'artiste s'est créé un véritable personnage écolo-futuriste. Pour me parler de son héroïne, on s'est retrouvés dans la forêt. Hildegard, pourquoi vous avez choisi de vous appeler Hildegard ?
J'ai choisi ce nom évidemment en référence à Hildegard de Bingen. C'est une femme qui est très inspirante, très intelligente et puissante, tout en étant quand même une personne assez délicate pour se soucier de la santé des siennes. Il y a quelque chose qui émane d'elle de profondément magique aussi. Et je me rappelle la façon dont j'ai découvert son existence, tout simplement. À l'époque, donc là on parle de 2011, j'étais très fan de l'artiste Grimes. Et il se trouve qu'elle a appelé un de ses albums Visions, parce qu'elle a utilisé un procédé similaire à Hildegard pour composer cet album, en se cloîtrant, en se privant de lumière, voire de nourriture, pour accentuer son pouvoir créatif, en quelque sorte.
On a traversé la roseraie de Provins, et on s'est enfoncé dans la forêt. La forêt, c'est l'endroit où vous vous sentez le mieux ?
Oui, on peut le dire. J'ai même décidé d'habiter proche de la forêt par nécessité. Et j'aime le fait de voir les saisons dans la forêt.
Vous êtes une fille de la forêt.
Oui. Enfin, un elfe, du coup.
Vous vous définissez comme agenre.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Vu que ma case n'existait pas, j'ai dû la construire. C'est-à-dire que je me retrouve pas forcément exactement dans les codes de la féminité ou de la masculinité, ou les deux à la fois. Enfin, c'est quelque chose de très fluide. Des fois, j'étais un peu garçon manqué, ou j'ai pu être ce genre d'adolescente qui a l'impression d'être une fille pas comme les autres, entre guillemets. Mais peut-être que si j'étais une fille pas comme les autres, c'est parce que j'en étais pas une. Moi, je pense qu'elle était super déconstruite, Hildegard. Mais le fait qu'elle soit contre l'intolérance, c'est aussi une déclaration d'amour à l'altérité, au droit d'exister quand on est, entre guillemets, autre, quoi.
Hildegard, vous êtes une des multiples identités d'Hildegard de Bingen. Est-ce que vous avez pour mission de transmettre son message avec vos moyens, la musique, la vidéo, le chant, la danse, la coiffure, les oreilles d'elfe, le maquillage, les tatouages?
J'ai appris que quand on veut remercier un saint, eh ben il faut faire connaître son nom. Et du coup, je me suis dit, mais quelle meilleure manière de la remercier que de porter son nom pour le propager? J'ai été très étonnée d'apprendre qu'elle avait carrément séparé son couvent du monastère pour aller s'établir au milieu de rien. Mais le fait de faire ce choix-là, hyper féministe en fait, de protéger ses sœurs, enfin c'est en fait elle a fait comme Adèle, elle s'est levée, elle s'est cassée quoi. Et en plus de ça, elle a aussi étudié le corps féminin, les menstrues, le plaisir aussi et moi, je trouve ça très fort de s'être intéressée à ça, de bien comprendre et bien s'occuper de notre vaisseau charnel, quoi. Alors qu'elles cachent leur corps aussi, hein, les sœurs, et voilà, et comme quoi elle était bien consciente qu'il y avait quelque chose de sensible et d'important en dessous.
Dans ses écrits, Hildegard dit qu'elle est un petit vase fragile.
Je sais pas, il y a un truc qui est terrible, hein, c'est qu'on adore quand les femmes sont dans une abnégation. voire même pas intelligente en fait. Ça, c'est très arrangeant pour le patriarcat en général. Est-ce que le fait de dire que ça vient pas vraiment d'elle, c'est aussi une façon de se protéger ? Moi, je pense que oui. Je suis assez certaine qu'elle aimait les femmes, en fait. Hein. Enfin, peut-être pas uniquement, mais je ne comprends pas comment on peut autant s'intéresser au corps des femmes, à leur bien-être. C'est une déclaration d'amour aux meufs, en fait. Hein. Je suis désolée, mais pour moi, c'est très très clair. Et on parle souvent de son histoire avec la sœur Ricardis, qui est présentée comme étant sa disciple. Hein. Moi, je pense qu'il y avait de l'amour aussi entre ces femmes. Mais de toute façon, comment elle pouvait faire pour écrire sur le plaisir féminin, etc., sans y avoir goûté, sans en avoir parlé ? Je pense que c'était une femme d'expérimentation. J'ai beaucoup de mal à croire qu'elle puisse écrire sur quelque chose qu'elle ne connaît pas. Je pense qu'elle ne se permettrait vraiment pas de faire ça.
Les histoires d'amour entre sœurs, entre nonnes, elles existent ?
Bien sûr. Et je pense même que c'était probablement une échappatoire préférable par rapport à la possibilité d'un mariage forcé ou peut-être de rencontrer l'âme sœur là-bas, l'âme sœur chez les bonnes sœurs, voilà.
Là, on est 1000 ans en arrière. On est vraiment à un autre endroit.
Léo Henry, romancier.
Et la façon d'envisager la religion et la sexualité, c'est deux choses qui sont radicalement différentes de maintenant, en fait. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que le fait de rassembler des femmes vierges, donc avec ce mot vierge en plus qui a totalement changé de connotation en réalité au 19e siècle, il y a quelque chose de l'ordre de la chasteté, voire de la pudibonderie. Moi, je pense que c'est... Enfin, ça se voit dans les écrits scientifiques de Hildegarde que c'est pas le cas. C'est-à-dire que l'immense majorité des femmes qui étaient dans ces communautés, c'est... il y avait beaucoup de femmes qui avaient été mariées, il y a des veuves, et que le fait de choisir cet environnement-là pour exister n'implique absolument pas de n'avoir jamais eu de relations sexuelles, et encore moins de s'en désintéresser, en fait. Et donc, le souci de Hildegarde, c'est un souci universel de ce qu'est la création de Dieu dans sa perception, et ça implique également ces choses. Il n'y a aucune raison que ça les exclue. Alors on peut se poser des questions sur la sexualité d'Hildegarde. Je sais par exemple qu'il y a, parce qu'elle est racontée, parce que ça fait partie de la légende, parce que c'est une très très belle histoire, on a des traces de sa relation avec Ricardis, donc qui était une des sœurs dans le couvent de Bingen et qui avait un rapport avec Hildegarde de préférence, à tel point que la famille de Ricardis a fait en sorte qu'elle soit mutée ailleurs, qu'elle soit promue et qu'elle puisse pas refuser sa promotion pour être séparée de Hildegarde. Et on a des correspondances et on a des traces en fait de cette relation, qui est une relation de sororité, d'amitié, et on ne sait pas en fait, mais qui est extrêmement puissante et belle. Et je pense que ça, pour le coup, c'est attesté et c'est suffisant en fait pour voir l'intensité aussi des émotions qui, elles, n'ont pas changé en fait. Ça, j'ai aucun doute là-dessus.
Écoute, ma fille, ce que l'Esprit te dit par ta mère. Ma douleur est montée jusqu'aux cieux. La douleur a détruit toute la confiance et la consolation que j'avais trouvée en l'être humain. À partir de maintenant, je dirais, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. C'est-à-dire, l'homme doit lever le regard vers celui qui vit au plus haut des cieux, sans avoir les yeux obscurcis par un amour terrestre que la terre humide rend sans consistance et éphémère. L'homme qui regarde Dieu est comme l'aigle dont l'œil fixe le soleil. C'est pour cela que cet homme ne peut pas compter sur une personne de haut lignage qui fait défaut comme la fleur se fane. C'est la faute que j'ai commise en aimant une noble personne. À présent, je te dis, toutes les fois que j'ai commis ce péché, Dieu me l'a révélé. Soit par quelques difficultés, soit par quelques tourments. Et il le fait encore aujourd'hui à ton sujet.
Comme tu le sais bien.
À présent, je te répète.
Malheur à moi, mère.
Malheur à moi, fille.
Pourquoi m'as-tu abandonnée comme une orpheline?
J'ai aimé la noblesse de ton caractère,
ta sagesse,
ta chasteté, ton âme, tout ton être, au point que bien des gens m'ont dit « Que fais-tu ? » À présent, que pleurent avec moi tous ceux qui souffrent une douleur pareille à ma douleur, mais à qui soudainement un être fut arraché comme tu m'as été ravi. Que l'ange de Dieu te précède, que le Fils de Dieu te protège et que sa propre mère veille sur toi. Souviens-toi de ta malheureuse mère Hildegarde pour que ta félicité ne vienne pas à manquer.
C'est difficile de savoir ce qui se passait exactement dans les monastères à l'époque d'Hildegarde entre les filles.
Geneviève Bührer-Thierry.
Il est très possible qu'il y ait eu des histoires d'amour allant jusqu'à des expériences sexuelles. C'est possible. On connaît la fameuse histoire de l'amour profond entre Hildegarde et Richard X de Stade. Il n'y a pas dans ce Moyen-Âge-là de différence entre l'amour et l'amitié. C'est-à-dire qu'une amitié sincère est la même chose qu'un amour profond. Quant à l'histoire entre Hildegarde et Richard X, je pense qu'on lui a davantage enlevé une fille qu'une amante. C'est-à-dire que le déchirement qu'on voit dans les lettres d'Hildegarde qui se bat pour empêcher Richard X de sortir du monastère et d'aller prendre la tête d'un autre monastère, voilà. C'est vraiment les pleurs de la mère qui perd son enfant. Et il faut bien voir que ces femmes de l'aristocratie qui vivent au monastère, elles ont renoncé à être des mères charnelles. Mais elles n'ont pas renoncé à être des mères spirituelles. La magistra, elle diffuse le savoir autour d'elle, mais si elle a des disciples, c'est aussi une forme de maternité spirituelle qui est très importante. Alors, bien sûr, on peut imaginer qu'il y a énormément d'affection entre ces femmes, mais je dirais que à la fois la différence d'âge et l'histoire même de Richard X me fait plutôt penser à une mère à qui on a enlevé son enfant qu'à une amante à qui on a enlevé sa chérie.
Charles, sag mir, dass ich mich nicht zu ängstigen brauche. Sag mir, dass du bei mir bleibst. Meine Mutter verlangt es von mir. Ich kann sie nicht kränken. Sollte ich mich so in deiner Liebe getäuscht haben? Meine Liebe zu dir ist immer rein und aufrichtig gewesen. Aber deine Liebe ist nichts als Eigensucht. Würdest du mich wirklich lieben? Würdest du Freude für meine Berufung empfinden?
Margaret von Trotta, dans votre film, il y a un point central. C'est la relation entre Hildegarde et Richard X. Richard X, cette jeune fille qui arrive au couvent et dont Hildegarde tombe quasiment amoureuse, en fait. C'est une passion dingue pour cette petite. Est-ce que c'est un amour maternel, un amour charnel? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux femmes?
Vous voulez dire que c'était un peu une relation... Mais bien sûr, c'était sûrement aussi une relation d'amour. Je ne crois même pas qu'ils ont peut-être fait l'amour, comme on dit aujourd'hui. Mais c'était une relation d'amour. Mais puisqu'ils ne connaissaient rien d'autre... Et ça, c'est normal quand tu vis avec les femmes, avec qui tu peux avoir une relation d'amour. Donc, vu d'aujourd'hui, c'est toujours un peu, c'est peut-être pas tellement clair et c'est pas tellement pur. Non, c'était pur. Pour elle, c'était pur. Et même si, bien sûr, c'était peut-être une relation d'amour et aussi de sexualité, pourquoi pas?
On sent que quand Richard X lui est arraché,
oui, bien sûr, elle devient folle, elle souffre comme et elle dit, elle est ma fille, mais aussi ma mère. Donc, bien sûr, c'était la relation la plus forte qu'elle a jamais eue dans sa vie. Elle est déchirée et elle devient aussi un peu vengeante. Enfin, on dit vengeante?
Un peu méchante.
Oui, un peu méchante. Quand elle écrit, parce que j'ai lu toutes ses lettres, elle a quand même écrit beaucoup, beaucoup de lettres. Comme tous mes personnages, Rosa Luxembourg, Hannah Arendt, j'ai toujours ma base de connaissances, c'est toujours ses lettres. Et après, Richard X meurt et on a vraiment l'impression qu'elle a un peu souhaité cette mort. Et après, bien sûr, elle se repent pour ça. Parce que c'est un désir qu'il ne faut pas avoir auprès d'une personne qu'on aime, non. Donc elle était très humaine et ça m'a aussi convaincue de faire un film sur elle parce que cette humanité, elle ne se rend même pas compte, non, qu'elle est un peu méchante.
Évidemment, on peut penser qu'il y a une forme d'emprise de la magistra sur ses filles. Je ne sais pas si on peut considérer qu'il s'agit là d'un phénomène sectaire. C'est-à-dire, est-ce que Hildegarde s'est comportée comme un gourou envers ses propres sœurs au monastère? C'est une question qu'on peut se poser, c'est-à-dire que tous ces personnages de l'Église ultra charismatiques, on pense à Hildegarde, mais un peu plus tard, on peut penser à saint François d'Assise, et même à Bernard de Clairvaux. Ce sont des gens qui ont exercé non seulement un magistère, mais une emprise sur les autres extrêmement grande. Je rappelle que Bernard de Clairvaux, il est entré au monastère avec plus de la moitié de sa famille et de ses amis. Qui se sont convertis avec lui. Mais quelle force de persuasion incroyable pour que ces jeunes aristocrates abandonnent là toute leur carrière, dirais-je, pour aller au monastère. Hildegarde, c'est un peu la même chose. Ce sont des personnages très charismatiques, très fascinants, et donc qui emportent avec eux sans doute l'adhésion, et peut-être au-delà. I may not always love you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you.
Je connais assez bien les moniales pour répondre qu'on peut tomber amoureuse quand on est une moniale fidèle à ses vœux et très attachée à la vie religieuse que l'on a choisie.
François Boflougue, professeur de théologie et historien de l'art.
Une personne qui a les yeux ouverts, un cœur vivant, n'est jamais à l'abri de ce genre d'événement qui consiste à tomber amoureux. C'est vrai aussi, entre parenthèses, pour les hommes qui vivent dans des couvents masculins, ils peuvent tomber amoureux les uns des autres ou tomber amoureux d'une personne qui écoute leur prédication à la messe le dimanche. Bon. Mais bien entendu que l'histoire de la vie religieuse féminine, même au Moyen-Âge, témoigne de nombreux phénomènes de chocs amoureux survenant dans le cloître. Et ça, je crois que Hildegarde l'a vécu, de fait. C'est presque rassurant qu'une personne comme elle ait été sujette à ce genre de bouleversement, si vous voulez, sans se mentir. Bon, et tant mieux si elle a connu ça, parce qu'on se sent moins seul. Si vous voulez, j'ai vécu des moments très troublants et très douloureux de ce point de vue-là. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Voilà, ça arrive. Et ça arrive, et c'est sur des occasions d'approfondissement de ce qu'on croit. Moi, j'ai été prêtre, oui. Et pour tout vous dire, il y a 13 ans, j'ai décidé de demander ma réduction à l'état laïque, et je l'ai obtenue, pour me marier finalement avec une femme qui enseigne à la faculté de théologie de Milan, et vécu extrêmement heureux. Bon, j'avais absolument pas programmé un truc de ce genre-là, c'est absolument inconcevable.
Le fait que vous ayez été prêtre, que vous soyez tombé amoureux, vous rapproche un peu d'Hildegarde sur une zone un peu mystérieuse et un peu secrète.
À certains égards, oui. À certains égards, oui. Il y a quelque chose qui, entre moi et elle, bon, circule, qui, à mon avis, plus fondamental encore que le fait de devenir amoureux, c'est d'être passionné par l'amour de Dieu, la présentation de son mystère et des richesses de ce mystère insondable qui convoque ce que l'esprit humain a comme possibilité, si vous voulez. Et ça, c'est le principal que je ressens avec Hildegarde de Bingen.
Quand on rencontre Hildegarde pour la première fois, c'est déjà trop tard, on est conquis par son génie. Son imagination est sans limite. Elle est aujourd'hui la grande prêtresse des langues imaginaires, car elle a inventé un code, une langue secrète qu'elle seule peut comprendre. Elle l'appelle lingua ignota, la langue inconnue.
O urscis ecclesia, armis divinis precinta, et hyacinto ornata, tu est caldemia stigmatum loi folum et urbs scientiarum. O, tu es etiam chrysanta in alto sono et es horsta gemma. Nobody knows why she made this thing.
Personne ne sait pourquoi elle a inventé cette langue inconnue. Il y a beaucoup de théories.
Benjamin Bagby, directeur de l'ensemble musical Sequentia.
We don't know where it comes from.
Nous ne savons pas d'où elle vient, et il n'y a pas de pièces entières dans cette langue. Elle la mélange avec le latin. Ces femmes parlaient allemand entre elles et en latin toute la journée en chantant. Donc, si elles devaient chanter ceci, ces mots, elles auraient probablement une prononciation allemande pour la lingua ignota et une prononciation allemande latine pour le latin. La théorie principale est qu'elle a inventé cette langue pour créer une solidarité et un sentiment d'appartenance, comme une langue secrète que seuls les adeptes pourraient connaître.
Elle est la première à avoir composé de la musique. Elle est la première à avoir fondé un couvent de femmes seules, en fait, à avoir décidé que les couvents féminins pouvaient être totalement indépendants des monastères.
Léo Henry.
Après, elle est aussi la première à avoir inventé une langue imaginaire. Et ça, c'est assez étonnant parce que la façon dont elle l'a fait est suffisamment exotique pour que, par exemple, quand Umberto Eco fait son bouquin sur les inventeurs de langues imaginaires, eh ben, il n'en parle pas, il ne la mentionne pas parce qu'il lui manque un certain nombre d'éléments. Cette langue imaginaire, c'est la lingua ignota, ou ignota lingua, qu'elle a recueillie dans le livre de ses œuvres complètes. Donc c'est suffisamment important pour elle, ce corpus-là, pour qu'elle décide que ça doit passer à la postérité, au même titre que ses visions, que sa musique, que les lettres qu'elle écrivait aux empereurs et aux papes, etc.
On a l'impression que c'est une langue codée. C'est ça aussi qui nous fascine dans une langue imaginaire, c'est qu'elle pourrait dire des choses secrètes.
Ça ressemble effectivement à un code secret, d'autant plus qu'il manque en fait beaucoup de choses pour en faire une langue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure grammaticale, et surtout on n'a presque aucune trace des usages qui a été fait de cette langue, c'est-à-dire que le seul endroit où Hildegard utilise la langue imaginaire, c'est dans une de ses chansons. C'est sans doute la première langue imaginaire poétique en fait, ça a pour but de dire quelque chose du monde qui serait indicible avec les mots qui sont à sa disposition.
Boyahun, Neleterain, Dan Karmenik, Veriafarhun, Amar Nanedoras, Arago,
Zadrizes Buzdaris, Gosdaur, Nigaitai Neres Chelmas Mohentar Gerio Lentrot, and Valeria Wepoanagarixan, Valeria Munioengos Nui.
Hildegard est la sainte patronne des Conlangers. Et les Conlangers, c'est donc cette communauté de gens qui est née en même temps que le réseau Internet, qui sont les gens qui inventent des langues imaginaires. Inventer des langues imaginaires, c'est un passe-temps qui est vraisemblablement du coup aussi vieux que Hildegard et peut-être plus vieux encore, et dont on a du mal à comprendre d'où il vient. C'est-à-dire que inventer une langue, ça n'a aucun sens. Une langue, c'est un objet culturel qui est partagé, et donc du coup, aucun individu ne peut inventer une langue. Par contre, les Conlangers, avec Internet, se sont rendus compte que c'était une pratique qui était partagée dans toutes les classes de la société, et c'est par exemple ce qui a poussé Tolkien donc à inventer son univers, en fait. C'est-à-dire que Tolkien était Conlanger en première instance, il est devenu linguiste parce que son passe-temps préféré c'était d'inventer des langues, et donc c'est les langues imaginaires de Tolkien qui ont conduit à écrire Le Hobbit et puis Le Seigneur des Anneaux, et donc créer cet univers. Et l'influence que Tolkien a eue sur la littérature de l'imaginaire est tellement grande que maintenant c'est absolument impensable d'inventer un univers de fantasy ou de science-fiction qui n'est pas sa langue imaginaire construite. Maintenant, on fait appel aux Conlangers quand il faut inventer le Dothraki de Game of Thrones, quand il faut inventer la langue imaginaire de Dune, etc. On va demander à des gens dont c'est à la fois la passion et qui ont la compétence pour faire ça. Et donc, Hildegard est officiellement la sainte patronne des Conlangers depuis bien avant qu'elle soit un docteur de l'Église.
Provins est une cité du Moyen-Âge. Une image d'Épinal comme l'imaginent les enfants quand ils jouent aux chevaliers qui vont terrasser le dragon et sauver la princesse. Dans les rues pavées, des haut-parleurs diffusent des chants de troubadours. Au pied du château, j'ai suivi l'odeur du pain d'épices qui m'a emmené dans une échoppe remplie de spécialités sucrées et de petits gâteaux médiévaux.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes Dame Corinne ?
Oui, c'est ça. On m'appelle Dame Corinne.
Qu'est-ce que ça signifie, Dame Corinne, pour vous ?
Mais ça signifie qu'on rentre dans le Moyen-Âge. Voilà, on rentre dans un nouveau monde d'anciennes saveurs. Puisque moi, je travaille à partir de manuscrits anciens. Et mon idée, c'est de faire revivre les goûts et les saveurs du Moyen-Âge.
C'était quoi les goûts et les saveurs du Moyen-Âge ?
Très fort, notamment en épices. On les utilise pour de très 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 nombreuses raisons, et sûrement pas pour cacher un goût du tout, c'est vraiment pour donner du goût, pour donner de la couleur, etc. Et puis aussi pour toutes leurs vertus médicinales, Et c'est notamment comme ça que les utilise Hildegard de Bingen. Pour parler d'Hildegard de Bingen, on a le fameux biscuit de la joie, une recette du XIIe siècle. Une recette qui plaît ou pas. C'est un petit gâteau qui est à base de petit épeautre ou d'épeautre, avec notamment de la muscade, de la cannelle et du clou de girofle. Nous, on est habitués à des produits qui ont été travaillés et retravaillés. Donc, du coup, on a un palais qui s'est aussi un petit peu aseptisé par rapport à ce qu'on pouvait manger au Moyen-Âge. Donc, dans ma recette, il y a moins d'épices que ce qu'il y avait au Moyen-Âge. Et même moi, pour l'avoir essayé, c'est immangeable. Il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, on dit que les cuisiniers de l'époque sont un petit peu aussi les médecins de l'époque.
Quel est le plat de base d'une famille du XIIe siècle, par exemple ?
Le pain. Ça, c'est le plat de base. Alors, c'est pareil, on a deux styles de cuisine au Moyen-Âge. La cuisine des serfs, et puis on a la cuisine des seigneurs. Et là, on est sur deux cuisines qui sont diamétralement différentes. D'un côté, on a accès à des produits qui peuvent être effectivement coûteux, comme les épices. Et de l'autre côté, on se sert vraiment de ce que l'on a dans la nature et ce que l'on a près de soi.
Plus on est riche, plus on mange de viande.
Alors oui, plus on va manger aussi d'animaux, plus précisément d'oiseaux, puisqu'au Moyen-Âge, la gastronomie rime aussi avec la religion. On mange des oiseaux parce que les oiseaux sont près du ciel. Les seigneurs vont manger aussi tout ce qui pousse au-dessus de la terre, parce que ça se dirige vers le ciel. Gastronomie, religion, santé, au Moyen-Âge, tout ça, c'est un triangle qui fait partie de la façon dont on peut manger.
Allez, je vais vous faire goûter les noisettes, on va ouvrir un
petit. Pourquoi les gens se ruent dans votre boutique ? Est-ce qu'il y a quelque chose de réconfortant à venir se nourrir de recettes ancestrales ? On est presque aux origines de la nourriture. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça de réconfortant ?
Je pense que oui, sûrement. Puis ici, on raconte une histoire. Hein. Voilà, on raconte l'histoire de ces biscuits. Toutes les idées que l'on peut avoir, on a tendance à penser que le Moyen-Âge, c'est rustre.
Sale,
grossier, mais loin de là. Enfin, le Moyen-Âge, c'est une période qui est extrêmement intéressante, que ce soit au niveau de la cuisine, au niveau des arts, au niveau de l'histoire. Enfin, c'est une cuisine, moi, c'est une période que j'adore. La cuisine du Moyen-Âge, ça fait partie de notre culture gastronomique. On a tendance à vouloir commencer, en fait, notre culture gastronomique à partir de la Renaissance. Comme si la Renaissance était le point de départ. Mais non, le point de départ, il est bien avant.
On mange comment ?
On mange avec sa main droite et avec ses trois doigts. Ici, on fait la pince. Voilà. On peut manger aussi avec la cuillère. La fourchette à deux dents, elle arrivera véritablement avec Louis XIV. On a une table, on n'a pas encore l'idée de la nappe. Au Moyen-Âge, on mange souvent sur ce qu'on appelle des tranchoirs. Les tranchoirs, ce sont des tranches de pain très très dures sur lesquelles on vient poser la nourriture. Et puis après, effectivement, on peut manger dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des écuelles en bois, en terre cuite, etc.
On va goûter quelque chose. Vous avez préparé un petit plateau ?
Allez, on est parti pour le biscuit de la joie. Vous allez d'abord avoir la muscade en bouche. Ensuite, en arrière-palais, vous allez avoir un petit peu la cannelle. Et dans le fond de gorge, vous allez avoir ce clou de girofle qui va venir prendre toute la place.
Ouais, en fait, ça défonce un peu.
Oui. Alors, pourquoi biscuit de la joie ? Parce qu'à l'époque, ce petit gâteau, c'est un petit biscuit santé que l'on va utiliser pour lutter contre la fatigue ou pour lutter contre la dépression.
C'est un petit dopant.
Oui, exactement. N'oublions pas, la cannelle est un antidépresseur naturel. La muscade permet de bien faire travailler le système digestif, tout comme la farine de petit épeautre ou d'épeautre. Et le clou de girofle est un anti-inflammatoire naturel.
J'ai vraiment l'impression de d'avoir des visions dans pas longtemps.
Hildegard est effectivement utilisée, accaparée, réappropriée.
Laurence Molinier.
Dans une optique strictement médicale et puis en fait dans une optique plus holistique ou même le spirituel, on veut se ressourcer dans son œuvre, etc., etc. Parce que notre époque, donc, à la nostalgie d'une époque supposément en phase avec la nature où l'homme n'était pas séparé de la nature et que Hildegard représenterait. Moi, j'ai jamais expérimenté les recettes de Hildegard et je ne le ferai sans doute jamais. Je pense qu'il y a un petit peu d'excès. Il y a par exemple des maisons pharmaceutiques qui vendent quand même des chaussons en peau de blaireau pour adopter ses conseils pour le bien-être des pieds. Bon voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais pauvre blaireau quand même. C'est un phénomène qui relève presque de la sociologie, en fait, Hildegard. C'est-à-dire que elle concentre un certain nombre d'attentes. Alors il y a la lecture féministe, il y a la lecture naturaliste, il y a la lecture New Age. Et il me semble que c'est la seule qui effectivement se prête à autant de redécouvertes enthousiastes de la part de nos contemporains.
Pourquoi elle suscite autant de fantasmes ?
Alors il y a d'abord sa redécouverte enthousiaste, et c'est normal dans les pays germanophones, où on redécouvre Hildegard, qu'on n'a peut-être jamais perdu de vue finalement non plus. Hein. Et puis petit à petit ça rejoint des aspirations ou nouvelles ou plus intenses de notre époque, se soigner plus sainement, manger plus sainement, rompre avec la chimie, etc. Ça fait certainement rouler une économie. Il y a beaucoup de produits dérivés, de gens qui animent des séminaires santé, joie de vivre avec Hildegard, de livres qui paraissent à ce sujet. Donc il y a un aspect très économique de cette redécouverte. Il y a certainement des fanatisés. Moi, je reçois des mails un peu invraisemblables de ce point de vue-là. Mais voilà, tous ces marchands du temple, là, ces produits dérivés, les montres Hildegard, les t-shirts Hildegard, ça m'a saoulé. Je me suis dit quand même, c'est trop, quoi. Et alors, le fait qu'elle ait été canonisée par Benoît XVI, évidemment, a fait encore plus monter en grade ce phénomène.
Retour en Allemagne, à Bingen, dans l'abbaye d'Hildegard. En contrebas, j'ai croisé Thécla. C'est la sœur qui s'occupe de tout le domaine viticole. Thécla, je vous regarde et vous n'êtes pas habillée en nonne. Vous êtes habillée dans le civil, avec un sweat à capuche, un jean, des tennis et les cheveux à l'air libre.
Oui,
avec la communauté, on a décidé que lorsqu'on travaille au jardin ou dans les vignes, on se met en pantalon et en sweat. C'est notre vêtement de travail. Là, on est sur le parvis. Derrière nous, on a l'abbaye. Et d'ici, on voit le Rhin en contrebas. Les abbayes bénédictines sont toujours construites en hauteur. C'est pour s'isoler et fuir le monde. Ce qui est fascinant dans cette abbaye, c'est cette vue gigantesque sur le Rhin et ses vignobles. On voit jusqu'à Wiesbaden et Mayence. Et cette vue lointaine, ça fait quelque chose. Beaucoup de gens qui viennent nous voir profitent de ces paysages qui font réfléchir. Et ils s'interrogent sur ceux qui vivent autour. C'est une région qui attire beaucoup. Il y a une fascination pour le fleuve, et quand on regarde en direction de Koblenz, en poursuivant le Rhin, il y a ce jeu entre les montagnes et les châteaux. On retrouve ça dans la littérature. Goethe aussi s'est promené par ici. Et ce n'était pas seulement par amour du vin, mais ça l'a inspiré pour écrire. On sent ici une atmosphère particulière.
Est-ce que vous vous sentez hors du temps, dans ce monastère, ou est-ce que vous êtes dans le monde ?
Comme on vit cloîtré en retraite, il y a des choses qui nous échappent. Mais en même temps, on est dans le monde. On est proche des vignerons, on est au courant de leurs soucis, et on suit régulièrement les informations dans les médias.
Quelle est la tradition du vin chez Hildegard ?
Ici, nous avons 7 hectares de vignes. À l'époque d'Hildegard, on cultivait déjà du vin. Elle aussi a eu ses vignes. Mais il faut garder en tête que le vin de l'époque d'Hildegard n'était pas comme aujourd'hui. Au Moyen-Âge, la qualité de l'eau n'était pas aussi bonne, donc on rajoutait du vin dans l'eau pour tuer les bactéries.
Pourquoi vous avez choisi d'entrer dans les ordres et pourquoi vous êtes venu ici, à l'abbaye de Sainte-Hildegard ?
Quand j'ai rencontré les sœurs, elles m'ont fasciné par leur mode de vie strict et reclus. Je me suis demandé comment c'était possible d'être aussi normale et heureuse. Je crois que l'important, c'est de trouver un endroit, une place à soi. C'est comme avec le mariage. Il y a le moment où l'on saute le pas. Pourquoi lui et pas un autre ? On le sait, c'est tout. Je n'aurais jamais imaginé dans ma vie que je deviendrais vigneronne.
Vous avez trouvé votre place ?
Oui.
On va dans la boutique ? Vous avez une belle cave, bravo.
Sur nos bouteilles, on a imprimé des étiquettes autour d'Hildegard. Par exemple, sur cette bouteille, on a l'image de la vision du cœur des anges.
Miniatur die Chöre der Engel der heiligen Hildegard zeigt. Ja, haben wir so gedacht.
Comme les hommes sont un peu rustres, on a choisi cette image-là sur un vin sec de vendange tardive.
Und dann gibt's noch meinen Lieblingswein.
Là, il y a mon vin préféré. Je voudrais vous le présenter. C'est le Benedictus.
Wir haben irgendwann mal gesagt, ach, unser Ordens.
Parce qu'on s'est dit que Saint-Benoît aussi devait avoir son vin. Sur l'étiquette, on voit un demi-arc du cœur des anges et c'est aussi mon image préférée.
Pourquoi pour le vin des hommes, vous avez choisi un vin sec ?
C'est une petite blague, parce que chez nous, les hommes sont un peu rustres.
Moi, je veux bien goûter. Donc là, on se met derrière le comptoir, on est comme au bar, en fait.
C'est notre vinothèque.
Frais, il a l'air doux.
On sent aussi la douceur du fruit dans le nez.
Mais il cache bien son jeu.
C'est un Riesling, jeune et frais. On peut l'utiliser pour la messe, ça marche très bien.
Aurélie.
Ah, ja.
Et vous vous appelez comment?
Michaela. Sœur Michaela. C'est normalement, on dit sœur, chez nous.
Sœur Michaela, vous êtes à la caisse de la boutique, du magasin. Et vous, sœur Michaela, vous êtes arrivée ici il y a 43 ans ?
47, oui.
Donc j'étais... vous aviez 20 ans ?
22 ans.
C'est très jeune pour entrer dans les ordres.
Dans cette temps, c'est souvent que les entrants sont très jeunes. Mais maintenant, les jeunes femmes sont plus vieilles, on peut dire.
Et pourquoi vous êtes rentrée dans les ordres si jeune, sœur Michaela ?
Pourquoi ? J'étais intéressée à la vie communautaire et j'aime de chanter les chants grégoriens.
Qu'est-ce que vous vendez dans la boutique ?
Du vin, des produits d'apôtres, des bougies.
Hildegarde, quelque part. Hildegarde, elle fait vendre. C'est un bon business.
Elle est une femme très intéressante et aussi politique. Et un peu féministe. Aujourd'hui, on dit féministe. Donc,
à l'époque, on disait pas féministe.
Non,
mais vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, elle serait féministe si elle était vivante ?
Je le crois.
Et vous ? Vous êtes féministe ?
Un peu, oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, féministe, pour vous ?
La femme peut devenir prêtre, par exemple.
Ce serait bien.
C'est le temps. C'est le temps, maintenant.
C'est le moment. Est-ce que les hommes sont meilleurs que les femmes pour être prêtres ?
Je ne crois pas. Non. On est des frauen in der Kirche.
Si les femmes ne participaient pas à la vie de l'Église, on pourrait fermer l'Église. Je pense que les femmes doivent réclamer leurs droits. Ce n'est pas correct ni acceptable d'être plus exigeant avec les femmes et de les payer moins bien que les hommes. Il y a trop de différences de statuts sociaux et il faut se battre pour nos droits.
Merci. C'est un plaisir de faire des affaires avec vous.
Das ist das französische Radio-Team zu Schwester Philippa. Ja? Also.
En quittant la boutique de l'abbaye, j'ai retrouvé sœur Philippa, la pragmatique, pour parler de cette Hildegarde mania.
Qu'est-ce que vous pensez de tout ce fanatisme autour d'Hildegarde ? Est-ce que tout ça, ça vous fatigue pas un peu ?
Hildegarde wird für sehr viele Zwecke missbraucht.
Je pense qu'Hildegarde est récupérée pour faire du business. Et il faut bien distinguer l'authenticité de l'effet de mode avec tout le marketing qui l'entoure. Et les gens sont prêts à payer très cher juste parce qu'il y a son nom affiché. C'est un grand problème et c'est une manipulation autour de son nom. Il y a des abus concernant ses visions. Elles n'ont rien à voir avec des phénomènes hallucinatoires. Vision, ça vient du latin vedere, voir. Ça n'a rien à voir avec des hallucinations artificielles. Si on croit ça, c'est très dangereux. Hildegarde n'a pas écrit une naturopathie curative, mais préventive, en prenant un style de vie sain, équilibré et sobre. Et je crois qu'on peut décrire la médecine d'Hildegarde comme une médecine de la résilience.
Man muss einsehen, Hildegarde wird von vielen Seiten
On fantasme beaucoup autour d'Hildegard. Pendant longtemps, on a eu les cercles ésotériques qui se sont appropriés son nom. Ensuite, on a eu les naturopathes et les homéopathes. Et plus tard, les théologiennes féministes. Mais ça va trop loin aujourd'hui. On n'a pas le droit d'instrumentaliser Hildegard à toutes les sauces. Par exemple, elle ne se positionnerait pas en faveur des femmes prêtres. C'était impensable il y a 900 ans. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait avec elle. Il ne faut pas abuser. Les gens qui viennent ici ont tous une idée en tête et une image d'Hildegard. C'est soit la sorcière aux herbes, la sainte de l'épôtre, la féministe, la femme politique, et nous on s'efforce de nuancer ces idées préconçues pour montrer qu'Hildegard était beaucoup plus que ça. Sa théologie, sa philosophie et sa musique sont trop négligées. Les visiteurs viennent ici avec des idées préconçues. Et moi je leur dis, vous êtes entrés par cette porte et j'espère que vous en sortirez par une autre.
J'aime bien cette phrase d'Hildegard qui dit, dans ses lettres, « Pour le scandale des hommes, aujourd'hui, ce sont les femmes qui prophétisent. »
C'est une citation d'Hildegard ?
Pour les enfants, c'est vrai que le côté mystique d'Hildegard, ça les inspire énormément.
Sophie Janin, directrice de la maîtrise musicale de Radio France.
Moi, il me semble que un atout qu'a les enfants, que nous, si on a de la chance en adulte, on peut le garder. Mais ce sens de voyage intérieur, ce sens d'imagination, où en fait l'histoire devient tangible, c'est vraiment une force que les enfants possèdent. Et le côté presque sorcière d'Hildegard dans sa recherche des potions, des recettes, des médicaments, de sa connaissance des plantes, sa connaissance cosmique sur l'univers, ça les fascine énormément. Et puis, avant tout, ils sont affrontés à un langage musical unique. Les enfants de la maîtrise, ils ont beau avoir peut-être 12 ans ou 15 ans quand ils affrontent cette musique, mais ils ont déjà rencontré énormément d'esthétiques différentes. Et pour eux, ils ont, comme l'adulte affronté pour la première fois, cette découverte, vraiment une ouverture des yeux vers un personnage absolument unique. Donc, ils veulent savoir quel âge elle a quand elle écrit telle chose. Ils veulent voir les peintures. Ils veulent connaître ses recettes. Ils veulent savoir des choses de sa vie. Et c'est exactement cette recherche-là que nous, les chefs, nous faisons quand on s'approprie une nouvelle œuvre. On essaye de captiver le personnage derrière, qu'il s'agisse de Hildegard von Bingen ou Francis Poulenc ou Caroline Shaw aujourd'hui. On essaye de connaître la personne.
Hildegard est un super personnage de fantasy parce que ce Moyen-Âge du XIIe siècle, c'est la racine du Moyen-Âge qu'on va utiliser pour l'heroic fantasy en fait. C'est le moment à la fin du XIIe siècle où les premiers récits de chevalerie sont portés par écrit. Et donc toute cette vision qu'on a maintenant de cette espèce de Moyen-Âge magique vient de cette époque-là. Et par ailleurs, moi, c'était un des trucs qui m'avait fasciné, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que dans l'heroic fantasy telle qu'elle s'est constituée, donc avec Howard et Tolkien, l'aspect religieux est complètement absent, en fait, où c'est vraiment construit contre ou avec d'autres structures mythologiques, mais pas le christianisme. Et quand on regarde objectivement ce monde-là, c'est un monde qui est merveilleux, c'est-à-dire que le réalisme de cet univers ressemble à de la fantasy. Et d'ailleurs, c'est écrit, quand on écrit une vie de saint, une des premières règles, c'est le registre narratif d'une vie de saint, c'est le merveilleux. Et le merveilleux, c'est la fantasy, en fait. C'est acter que le monde est magique.
Si on imagine Hildegard vivante aujourd'hui, je pense qu'elle serait une militante écologiste de ferveur. Et c'est intéressant d'imaginer qu'elle serait là aujourd'hui, parce que je crois que si elle était quelqu'un qui offrirait des séminaires, des retraites pour les gens, pour venir expérimenter, réfléchir, développer des choses, je crois que ça serait une abondance de candidatures, parce qu'elle représente énormément de choses que beaucoup de gens recherchent aujourd'hui. De se centrer sur quelle est la planète qu'on est en train de laisser pour les futures générations. Et aujourd'hui, il me semble qu'on se préoccupe aussi beaucoup de ça. Le monde n'est pas dans un endroit paisible, loin de là. Et je crois que justement, on cherche des solutions à comment avancer, comment essayer de sauver cette planète. Et comme c'est une femme dotée d'une grande sagesse, je crois qu'elle saurait le faire.
Comme c'est une grande gueule, là encore, vous passez l'expression, elle trouverait peut-être une cause pour se faire entendre. Je sais pas, un rôle à la Greta Thunberg, quoi. Mettre un petit peu, jeter un pavé dans la mare. C'est ça que j'imagine, quelque chose d'un petit peu éclatant tout de même.
Je pense que ce qui fait de Hildegarde une forme d'héroïne pour les femmes d'aujourd'hui, c'est sa capacité à parler du corps féminin de manière transparente. Sans tabou, comme on dit. Alors, je ne crois pas que ce soit sans tabou absolument, mais de fait, elle explore la physiologie féminine, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'en tant que nonne, en tant que religieuse, elle parle des règles. Bon, ça, les religieuses ont aussi leurs règles, mais elle parle du désir féminin, elle parle du plaisir féminin, que très probablement, elle n'a jamais connu.
Qu'est-ce qu'elle peut apporter aux jeunes filles d'aujourd'hui, Hildegarde ?
Un peu de force et d'espoir. Moi, à chaque fois que je raconte son histoire, tout le monde est ébloui.
Si Hildegarde était vivante aujourd'hui, si elle était là, elle serait qui, elle ferait quoi ?
Peut-être que ça serait Björk. Si j'avais deux mamans comme ça serait Björk et Hildegarde. Björk, elle, je sais pas si elle cuisine beaucoup, je sais pas si elle fait beaucoup de remèdes, mais je suis sûre qu'elle a des visions aussi. Ou alors, ça se trouve, ça serait un personnage beaucoup, beaucoup, beaucoup plus discret. Parce que je pense qu'Hildegarde devait être quelqu'un d'assez discrète, dans une humilité profonde. Après, on peut être artiste et reconnu et être humble, bien sûr. Peut-être qu'elle serait une rebouteuse retirée en Bretagne.
C'était Hildegarde de Bingen. Cinquième et dernier épisode, Hildegarde Mania. Avec Léo Henry, Laurence Moulinier, François Beauflouc, Sophie Janin, Geneviève Bureur-Thierry, Margaret Von Trotta, François Chéniaud, Dame Corinne, Hildegarde, Benjamin Bagby et Pierre Lemarquis.
On n'arrêtera jamais de parler d'Hildegarde, j'ai l'impression.
Peut-être qu'elle nous écoute.
Ah mais c'est sûr. Mais moi je le sens des fois quand j'ai l'impression de un peu lui parler dans ma tête ou quoi. Je ressens vraiment de l'amour et de la gratitude quand je pense à elle. C'est très précieux et c'est très beau.
Un grand merci à Marion Ennis et Katia Zimmermann pour leur aide précieuse. Les visions, les lettres et les poèmes ont été lus par Marie Constant, Renaud Bertin Cordoliani et Andrea Schiffer. Merci à toute la communauté des bénédictines de l'abbaye d'Hildegarde pour leur formidable accueil. Documentation musicale, Antoine Villose. Prise de son, Yann Fressy et Martin Troadec. Mixage, Manuel Couturier. Coordination, Christine Bernard. Hildegarde, génie cosmique, une grande traversée d'Aurélie Sfèze, réalisée par Benjamin Hue.